Pocati. Le journal Belinda Bosuma. Pocati.
Plusieurs barrières ce matin dans la ville de Goma au Nord Kivu et une dizaine de véhicules saisis. Et pour cause, l'assassinat de Ngeza Yoprikojin, propriétaire d'un hôtel de la place. Nous ferons le point dans un instant avec notre consoeur Rosalie Zawadi depuis Goma. Au Kassai occidental, les conséquences de la grève radicale des agents de la régie des eaux depuis deux jours se font déjà sentir. La population éprouve d'énormes difficultés de ravitaillement en eau potable. Les détails également dans ce journal. Et puis au Kassai oriental, les tenanciers des officines pharmaceutiques ont décrété une journée sans pharmacie depuis ce matin. Qu'est-ce qui est à la base de cette situation? La réponse dans la seconde partie de cette édition. Mesdames et messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, la police et l'armée ont placé plusieurs barrières dans la ville et une dizaine de véhicules sont saisis ce matin. Ceci fait suite à l'assassinat de l'opérateur économique Ngeza Yoprikojin, propriétaire de Mask Hotel. Selon des sources policières, cet homme a été abattu non loin de la résidence du gouverneur de la province vers 15h lorsque ses assaillants à bord d'un véhicule Pajero l'ont logé 4 balles. Nous avons en ligne depuis Goma notre consoeur Rosalie Zawadi. Bonjour Rosalie.
Bonjour Belinda.
Oui, dites-nous, plusieurs militaires et policiers sont mobilisés pour retrouver les assassins de l'homme d'affaires Ngeza Yo.
Disons que ce matin, des éléments de la police et de l'armée qui font désormais partie d'une commission d'enquête mixte armée et police mise sur pied pour retrouver les auteurs de cet acte ont érigé des barrières sur certaines artères de la ville. 4 barrières au total. C'est notamment sur la route qui mène vers le gouvernorat des provinces dans la partie ouest de Goma. Une autre à l'est de la ville, précisément sur la route qui mène vers l'aéroport. Sur place, des éléments de la police et de l'armée faisaient une fouille minutieuse dans chaque véhicule. Mais tous les véhicules des marques Mitsubishi Toyota étaient interceptés et amenés dans l'enceinte de la police nationale congolaise.
Et pourquoi cette sélection des véhicules?
D'après la police, les premiers éléments d'enquête indiquent que les assassins de M. Ngeza Yo s'est trouvés à bord d'une Jeep Mitsubishi Pajero. C'est ce qui explique que l'enquête s'oriente davantage sur ce type de véhicules.
Oui, a-t-on une idée sur les premiers résultats de ces enquêtes?
La police affirme que ces enquêtes n'ont encore rien donné, mais un responsable indique que toutes les pistes possibles sont explorées en vue de retrouver les assassins.
Rosalie, quelle ambiance à Goma en ce moment?
Il faut dire, Belinda, que les activités se déroulent normalement dans la ville, mais la psychose gagne les habitants et toutes les hypothèses circulent. Pour certaines personnes rencontrées ce matin, si des personnalités comme Ngeza Yoprikojin peuvent être assassinées en plein jour, la vie du citoyen moyen est vraiment en danger. Mais le vice-gouverneur a tenu tout de même à donner des assurances sur la radio officielle ce matin. Feller Lutaïtiroi a promis l'implication des autorités pour sanctionner les auteurs. Et entre-temps, la Fédération des entreprises du Congo condamne cet assassinat et exige une enquête correcte et un châtiment exemplaire pour les coupables.
Merci Rosalie pour ces précisions. On vous retrouve dans nos prochaines éditions pour d'autres informations. Pendant ce temps, le Conseil de sécurité de l'ONU a mis en demeure hier les groupes armés Hutu-Rwandais opérant dans l'est de la RDC à déposer les armes sous peine des sanctions supplémentaires, renseigne une dépêche de l'AFP. Dans sa résolution 1804 rédigée par la France et adoptée à l'unanimité, le Conseil, je cite, exige que tous les membres des FDLR, ex-FAR, Interahamwe et autres groupes armés rwandais qui opèrent dans l'est de la RDC déposent immédiatement les armes. De citation. Le Conseil de sécurité exige qu'il se présente aux autorités congolaises et à la MONUC sans plus tarder et sans condition préalable en vue de leur désarmement, démobilisation, rapatriement, réinstallation et réintégration. Voilà, entre-temps, des coups de feu entendus depuis ce matin à Kisantu, à près de 245 km de Matadi dans le Bas-Congo. Le bilan n'est pas connu pour l'instant, mais des activistes des droits de l'homme affirment que quelques personnes présumées adeptes du Bundu-Dia-Congo ont été tabassés par les forces de l'ordre. Un policier soupçonné d'adepte du Bundu-Dia Congo a également été tabassé par ses collègues. Signalons que c'est depuis 3 jours que la police a assiégé ce lieu de culte du mouvement politico-religieux BDK. Pour l'heure, les autorités politico-administratives de Kisantou sont injoignables. Notez aussi que la police a saccagé ce vendredi quelques habitations dans le quartier Vulumba de la ville de Mwanda, y compris celle de Nembanza, supposé être le responsable numéro 1 du BDK dans cette localité. Vers 1h du matin, la police avait déjà détruit le Zikwa ou quartier du BDK. Mwanda Kowalonsele, administrateur du territoire de Mwanda, affirme que la police ne s'est attaquée qu'aux habitations qui abritaient des Makessa ou bras armés du Bundu-Dia Congo. Les habitants affirment que la police a commis des exactions sur des paisibles citoyens. À Kananga, au Kasaï occidental, après 2 jours de grève radicale des agents de la régie des eaux, les conséquences se font sentir dans la ville. La population éprouve d'énormes difficultés pour se ravitailler en eau potable. Les autorités provinciales tentent de trouver une solution adéquate face à la situation. Des détails avec Marie-Chantal Lumba.
Depuis 2 jours, les sources d'eau sont devenues les seuls points de ravitaillement en eau. Hommes, femmes et enfants, tout âge confondu, se ruent vers ces sources. Ils s'alignent en des longues files indiennes pour remonter les pentes vers leur domicile, transportant sur la tête des bassins de ce liquide vital. Même les bornes fontaines de la régie des eaux qui fournissaient l'eau potable au quotidien sont fermées. Selon le syndicat des travailleurs de la régie des eaux, c'est face à l'indifférence des autorités à leurs réclamations qu'il a déclenché la grève. Une grève suite à l'impaiement de 54 mois d'arriérés de salaire et au manque d'amélioration des conditions salariales. Pour le directeur provincial intérimaire de la régie des eaux, la sortie de la crise ne dépend pas seulement d'une intervention de la direction générale. Bopé Minga souligne que les abonnés ont également une part de responsabilité dans cette situation par l'impaiement des factures qui s'élèvent à plus de 900 millions de francs congolais. Entre-temps, des pourparlers sont en cours entre les autorités provinciales, celles de la régie des eaux et le syndicat pour l'organisation d'un service minimum. De Kananga, Marie-Chantal Lumba, Radio Okapi.
Au Katanga, la population de Moba, à 300 km au sud de Kalemi, est sensibilisée depuis mercredi contre l'intoxication. Enseignement dispensé par les autorités politico-administratives de cette partie du pays. D'après l'administrateur du territoire, des tracts sont lancés à travers la ville, appelant les habitants à marcher contre le retour forcé des Banyamulenge à Moba. Une mission de la MONUC est attendue sur place pour appuyer cette campagne. Le point avec Donna Chimboge.
Le chef de la cité des Moba affirme que les habitants sont venus par milliers suivre son message. Le rassemblement a eu lieu à Moba Port. Tous les membres du conseil de sécurité ont répondu présents. La communauté internationale était également représentée par des officiers de la MONUC et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Objectif, lancer un démenti aux messages xénophobes contenus dans des tracts qui circulent à travers la ville depuis lundi. Ces tracts appellent les habitants des Moba à s'opposer au retour forcé des Banyamulenge dans cette ville contre la volonté de la population. L'administrateur du territoire des Moba a donné le ton. Dieudonné Mwamba a réuni des notabilités du territoire, parmi lesquelles des chefs des collectivités, des chefs coutumiers et des membres de la société civile, à ne pas croire en ces messages xénophobes. Il a par ailleurs annoncé que les services de sécurité sont à la recherche des auteurs de ces tracts. Ce jeudi soir, rendez-vous était pris avec les habitants du quartier Kirungu pour le même message. Lubumbashi, Donat Chimboche, Radio Okapi.
À Bounia, dans la province orientale, clôture hier de l'atelier sur le plan d'action visant la stabilité et le relèvement communautaire en Ituri. Ces assises ont regroupé pendant 3 jours environ 200 personnes, notamment des députés provinciaux, des chefs coutumiers, les autorités politico-administratives de la province et du district, ainsi que la MONUC. Des détails avec Jean-Claude Loki.
La sécurité des personnes et de leurs biens, l'éducation, la santé, le transport ainsi que l'agriculture, pêche et élevage, tels sont les 5 secteurs d'activité que les participants ont décidé de soumettre aux bailleurs pour la stabilisation de l'Ituri. Sur le plan sécuritaire, l'amélioration de la prise en charge des FADC et des policiers ont été recommandées. Dans le domaine de l'éducation, l'allègement de la prise en charge des activités scolaires par les parents, mais également le maintien d'une diplomatie agissante avec les pays voisins. Dans le domaine économique, les participants ont relevé la nécessité d'une gestion transparente des ressources naturelles pour une meilleure préservation de l'environnement. Une équipe mixte composée des experts des services du plan et de ceux des agences du système des Nations Unies sont chargés de déterminer les activités concrètes à mener ainsi que leurs coûts pour la concrétisation de ce plan de stabilisation. Le travail sera soumis au gouvernement provincial pour approbation. Lors de son dernier passage en Ituri, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Rance Mountain, a indiqué que les fonds sont déjà disponibles pour le financement de ce plan. Bounia, Jean-Claude Loki, Radio Kapi.
Au Kassai-Oriental, les tenanciers des officines pharmaceutiques ont décrété une journée sans pharmacie depuis ce matin. Qu'est-ce qui est à la base de cette situation? La réponse après ces nouvelles en bref. Un tournoi de football démarre cet après-midi au stade de l'unité de Goma au Nord Kivu. En match d'ouverture, la police d'intervention rapide jouera contre les motards. Selon la police, ce tournoi dénommé Amani, qui signifie paix en Swahili, entre dans le cadre de la dynamisation des relations entre la police, l'armée et la population. Une dizaine d'équipes y prendront part. En page internationale, 3 personnes enlevées le 26 février dernier par des coupeurs de route à Bangui en République centrafricaine ont été tuées par leurs ravisseurs. Parmi ces personnes, le maire de Kouy, une ville du nord-ouest de la Centrafrique. Information livrée ce vendredi par la gendarmerie de la place. Selon la même source, ces ravisseurs ont agi ainsi après avoir attendu en vain le versement de la rançon. Rançon qui s'élevait à 6 950 000 francs CFA, soit plus de 10 000 dollars pour leur libération. Et puis, les autorités tchadiennes et l'UNICEF ont officiellement lancé ce vendredi à Abéché, dans l'est du Tchad, la restitution aux familles de 103 enfants que l'association Arche de Zoé avait tenté d'amener en France en octobre dernier, selon l'AFP. Après une cérémonie à l'orphelinat d'Abéché, où les enfants résidaient depuis leur arrestation, 83 d'entre eux ont embarqué à destination d'Abré à 150 km à l'est où ils sont attendus par leurs familles.
Okapi, toutes les infos de l'ensemble du pays.
Thérèse Concou d'abord en province orientale où plus d'une centaine d'infirmiers appuyés par le personnel de la zone de santé de Bouta à 324 km au nord de Kisangani manifestent depuis ce matin dans les rues de la cité.
La même manifestation est également organisée à Aketi et à Bondo, territoire à 500 km au nord de Kisangani. Les blouses blanches du Bawele expriment ainsi leur indignation suite à l'assassinat en février dernier du médecin Franck Muindo Bahati à Beni. Ils s'insurgent aussi contre l'agression de leurs collègues infirmiers de Kinshasa par des inconnus. À travers leurs calicots arborés au cours de cette marche, ils exigent une protection de la part du gouvernement.
Au Kassai-Oriental, les tenanciers des officines pharmaceutiques décrètent une journée sans pharmacie depuis ce vendredi matin.
Ceci à la suite du lancement hier d'une campagne d'assainissement dans ces secteurs. Ce nettoyage du secteur pharmaceutique est initié par le gouvernement provincial afin de pousser les tenanciers des officines à se conformer aux normes requises pour le fonctionnement d'une maison des distributions de médicaments. Un reportage de Billy Yvan Lutumba.
Au nombre de plus de 515 officines pharmaceutiques et dépôts répertoriés par l'inspection provinciale de la pharmacie, seuls 3 grands dépôts sont ouverts ce vendredi matin et quelques petites officines. Du coup, l'approvisionnement à médicaments pose problème. Certains parents rencontrés à Bakwadianga craignent le pire. Selon le président de la PROFA, Association des propriétaires des pharmacies, il s'agit d'un mouvement spontané et solidaire des tenanciers des pharmacies. Ils s'insurgent contre le rejet des conditions d'assainissement telles qu'ils les ont proposées à la commission chargée de ce toilettage. Et notamment la dimension minimale du bâtiment, sollicitée à 16 mètres carrés au lieu de 45, une rallonge leur permettant d'espacer leurs officines et la demande de ne pas infliger les amendes pour non-paiement de la taxe d'ouverture d'une pharmacie. Les propriétaires des pharmacies exigent par ailleurs que la taxe d'ouverture qu'ils acceptent de payer soit véritablement versée dans le trésor public. Pour sa part, le pharmacien inspecteur provincial a révélé à la presse que les conditions applicables sur le terrain ont été discutées et même allégées au préalable de concert avec les représentants des tenanciers des pharmacies. Il qualifie ce mouvement de diversion. Billy Ivan Lutumba, Mbujimayi, Radio Okapi.
Poursuivant au Sud Kivu, à quelques jours de l'élection par les députés provinciaux du nouveau gouverneur de province et de son vice, la haute autorité des médias appelle les 4 candidats retenus à s'expliquer devant la population à travers les médias terrestres.
Cette information a été donnée hier au directeur de campagne des candidats gouverneurs, aux responsables de leur regroupement politique, ainsi qu'aux animateurs des émissions des débats à caractère politique sur les radios et télévisions de la place. Pour le coordonnateur de la HAM, Janvier Moussemé, l'hémicycle de l'Assemblée provinciale, seul seul ne suffit pas pour un candidat d'être assez connu, ainsi que son programme d'action par la population, bien que ce sont les élus du peuple qui devront les lire. Janvier Moussemé Kilondo l'explique au micro de Didas Namujimbo.
Le gouverneur que nous attendons, le grand électeur qui est le député provincial, aura à les lire. Mais il faudrait que ces quatre candidats là-bas présentent à travers les médias leur programme d'action auprès de la population pour que la population elle-même juge de l'importance de leur présence ou de son projet de société qu'il voudrait présenter. Il faudrait que les candidats arrivent à s'exprimer devant la population et après, il va passer maintenant au vote et on saura qui des quatre sera élu.
Est-ce que la campagne dans l'hémicycle de l'Assemblée ne suffit pas?
Nous pensons, nous, que faire une adresse à travers un face-à-face entre les quatre députés pourrait fixer la population.
À noter aussi que selon les calendriers établis par la CEI, la campagne électorale au poste de gouverneur de la province du Sud Kivu va du 17 au 19 mars prochain.
Merci Thérèse, merci également à vous chers auditeurs. C'est par cette note que nous mettons un point final à ce journal. Au revoir.